cette nouvelle, cette information qui nous est parvenue, je vais vous le dire bien franchement, c'est une auditrice qui nous a appelé. Et ce n'est pas son vrai nom, je vous le dis d'emblée. Et son témoignage a été recueilli par notre journaliste, Mylène Deschamps. Et on va aller la rejoindre tout de suite. On va l'appeler Nathalie. Bonjour, Nathalie.
Bonjour.
Vous êtes responsable des ressources humaines dans une entreprise de l'Abitibi. On ne va pas la nommer. Et là, vous allez nous raconter ce qui s'est passé.
Bien, en fait, c'est que nous, on fait venir, avec la pénurie de main-d'œuvre qui frappe particulièrement en Abitibi, on a fait venir des immigrants. Donc, et là, c'est ça, sur la quantité d'immigrants qu'on a fait venir, là, on en a deux qui sont repartis, dans le fond, là, qui nous ont donné leur démission, qui sont partis de l'entreprise. Puis on en a un qui s'est juste, en fait, pas présenté, là.
OK. Les deux qui ont quitté, est-ce qu'ils sont venus chez vous? Est-ce qu'ils ont commencé à travailler, puis à un moment donné, vous avez perdu leur trace? Qu'est-ce qui
oui,
s'est passé?
C'est ça. En fait, c'est qu'il y en a un qui est venu travailler avec nous. Il a travaillé un certain temps, là, plus qu'une année avec nous. Puis ensuite, un matin, il est arrivé après avoir obtenu son CSQ, son certificat de sélection du Québec. Il est venu nous donner sa démission, puis ensuite de ça, on l'a perdu. On l'a perdu de vue complètement. Donc, eux arrivent ici avec un permis de travail fermé. Ils ne peuvent pas travailler ailleurs que chez nous là, pour les 3 années, à moins d'avoir eu leur résidence permanente. Mais cet employé-là est parti là, après un an de travail avec nous. Il nous a vraiment remis une lettre de démission puis il a quitté.
Alors que, selon le permis de travail, il s'est engagé à travailler 3 ans chez vous, exact?
Oui, c'est exactement ça.
OK, on va parler de celui-là, puis après ça, on parlera des autres, parce que je veux, c'est quand même assez compliqué, puis je veux pas qu'on se mêle.
Oui.
Donc, après 1 an, il obtient son certificat de sélection du Québec, donc c'est oui. Le gouvernement du Québec qui lui donne ce papier-là.
Mm-hmm.
Et puis là, une fois qu'il a le papier, il dit « Ciao, bye, je m'en vais ».
Oui.
Est-ce que vous savez où il est allé?
Bien, en fait, nous, on a des informations. Il a travaillé avec nous là, pendant plus d'un an, fait qu'on a des informations... Il est ami avec certains de nos employés. Puis l'information qu'on a obtenue, c'est qu'il faisait du taxi en dessous de la table, quelque part, sur l'île de Montréal.
OK, il est encore au Québec.
Il est encore au Québec.
Mais il travaille au noir.
Mais il travaille dans... Oui, parce qu'il ne peut pas. Avec un CSQ, on peut pas travailler. Donc, et c'est quand même une grosse démarche, là. Admettons qu'il va voir une entreprise avec seulement un CSQ, d'avoir un permis de travail... qui serait fermé pour cette entreprise-là. C'est quand même beaucoup de démarches. Fait que beaucoup d'entreprises sont réticentes là, quand ils savent plus ou moins comment ça fonctionne. Là.
OK. Ça, c'est, on va l'appeler le travailleur numéro 1. Le travailleur
oui.
numéro 2, lui?
Il est venu ici. Il a travaillé avec nous 3 mois. Il nous a donné sa démission. Puis il est parti.
Il est parti où?
Il est... Bon, ça, je ne peux pas vous le dire. J'en ai aucune idée. Il est arrivé ici avec sa conjointe parce que nous, on... Dans le fond, quand on les sélectionne, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent pour un projet d'immigration. Donc, on les sélectionne vraiment pour qu'ils viennent. Donc, on encourage qu'ils viennent avec leur famille. Donc, il est arrivé avec sa conjointe. Et elle a un permis de travail ouvert parce que lui a un permis de travail fermé avec notre entreprise. Il a donné sa démission, puis ils ont quitté toutes les deux la région.
OK. Quand vous faites venir quelqu'un comme ça avec sa conjointe, ça doit impliquer des sous pour l'entreprise, là, j'imagine,
oui.
Non?
C'est énormément de frais. C'est des frais parce que nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les employés s'intègrent et qu'ils se francisent, dans le fond. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils parlent bien français. On veut qu'ils s'intègrent dans la région. Donc, puis qu'ils s'intègrent beaucoup aussi dans le groupe de travail. Fait que c'est sûr qu'on met énormément d'argent là-dedans. On met énormément d'efforts, personnellement, là, pour vraiment bien les intégrer. Il y a aussi les coûts reliés à l'obtention, là, bien sûr, de l'IMT puis de toute la démarche là, qui est un coût de base.
L'IMT, ça c'est quoi ça?
C'est l'étude d'impact en,
sur le marché du travail.
Ouais, oui,
c'est demandé par le fédéral. Ouais, okay.
Oui, c'est ça. Oui.
Voilà, OK. Mais alors, donc, vous le faites venir. Dites-moi, grosso modo, combien ça vous coûte, mettons, recruter quelqu'un puis l'installer en Abitibi, là, puis l'installer près de chez vous? Combien ça vous coûte à peu près là, à l'entreprise? Là?
Je vous dirais, c'est entre 25 et 30 000 $ le minimum la première année.
Par travailleur?
Mm-hmm.
OK, fait quand il y en a un qui se pose comme ça ou qu'il y en a une qui se pose comme ça, vous venez de perdre un gros investissement, vous, là.
Oui, c'est sûr que nous, on perd un gros investissement, mais ça, à quelque part, c'est même pas pour ça, dans le fond, que je voulais le dénoncer. C'est que oui, on perd l'investissement, c'est sûr que c'est plate pour l'entreprise, mais on investit souvent dans nos employés, puis des fois, ils quittent, puis ça, on n'a pas le choix.
Mm-hmm.
C'est que là, présentement, il n'y a aucune démarche qu'on peut faire au gouvernement. Donc, nous, ils quittent. On est responsable d'eux, mais il n'y a aucune démarche qu'on peut faire.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas, là.
Ben, dans le fond, nous, on est responsable des employés, le temps de leur contrat de travail et le temps qu'ils séjournent au Canada.
Oui.
Donc, mais là, moi, ils quittent. Et je peux pas avertir le gouvernement. On a appelé au gouvernement du Québec, on a appelé au gouvernement du Canada pour avoir la démarche officielle. Écoutez, j'ai quelqu'un qui vient de quitter. Qu'est-ce que je fais? Permis de travail fermé. Et personne ne peut me répondre. Aucune personne au gouvernement est capable de me dire, ben, écoutez, madame, c'est simple. Vous envoyez un fax à tel endroit ou vous envoyez une copie de la lettre de démission ou vous envoyez, il y a rien. Donc là, mes personnes, je les perds complètement. Moi, je suis responsable d'eux, mais je les perds complètement. Je perds leur trace.
Aïe, aïe, ça n'arrête pas de bien aller, là. Fait mm-hmm. que vous êtes responsable. Oui. Vous avez engagé des dépenses. Mm-hmm. Vous vous tournez vers les autorités, que ce soit celles de Québec ou d'Ottawa.
Mm-hmm.
Puis ils vous disent essentiellement, on ne peut rien faire.
C'est ça. Vous avez tout compris. Et là, mon deuxième, dans le fond, l'employé numéro 2, appelons-le employé 2.
Mm-hmm.
Notre employé 2, lui, sa conjointe avait un permis de travail ouvert parce que ça vient automatiquement avec le permis de travail fermé. Quand la conjointe les accompagne, elle a un permis de travail
donc
ouvert.
Donc, elle peut travailler n'importe où dans n'importe quelle entreprise.
Elle peut travailler n'importe où au Canada présentement. Là.
OK. Fait que le travailleur numéro 2, lui, on l'a complètement échappé. Là. Lui,
complètement.
On ne sait pas où il est rendu. Là.
Non.
OK, mais quand vous me dites, là, vous avez appelé le ministère de l'Immigration du Québec, c'est ça?
Oui, j'ai appelé le nouveau MIFI, l'ancien MIDI. Donc, j'ai appelé au ministère. J'ai appelé après ça. Eux m'ont référé, parce que là, eux, ce qu'ils disent, c'est oui, mais le permis de travail, c'est fédéral.
Oui.
Donc, j'ai transféré au fédéral. Et là, au fédéral, ils font oui, mais là, madame, vous savez, on sait pas trop. Donc là, appeler au provincial, parce que dans le fond, c'est vu que c'est au Québec, c'est jurisprudence provinciale. Fait que là, j'ai rappelé au provincial en disant « Oui, mais le fédéral me dit que c'est provincial. » Et là, le provincial fait « Mais non, madame, parce que là, c'est un permis de travail. Donc, le permis de travail, c'est fédéral. » Fait que là, on se fait un petit peu lancer, là, il se lance la balle, puis il y a rien de fait, là, dans le fond.
Puis on a des gens qui, dans les faits, vivent dans l'illégalité, là.
Mm-hmm.
Deux fois plutôt qu'une, en fait, parce que non seulement ils ne respectent pas le permis, mais ils travaillent au noir.
Mm-hmm.
Dans le cas du numéro 1, en tout cas.
Mm-hmm.
Là, on me demande, les auditeurs me demandent quel genre de travail ils occupaient.
C'est un travail en production métallique.
Production métallique.
Oui.
Ils provenaient de quel coin du monde? Est-ce qu'ils provenaient de quel pays?
Ils provenaient de l'Afrique.
OK. Numéro 1 et numéro 2?
Oui.
OK. Bon. Mais moi, ce qui me jette à terre, c'est que... Donc, il n'y a aucune démarche pour essayer de les retrouver. Il n'y a personne
non.
qui les cherche pour dire,
non.
regarde, tu ne respectes pas ton permis, bonhomme.
Même, il n'y a aucune démarche pour arrêter le permis de travail de numéro 2, de la femme de numéro 2.
OK. Fait qu'ils sont... Elle est venue... Je pense qu'on peut dire ça. Elle est venue grâce au permis de son homme,
de son conjoint.
Oui. Lui... ne respecte pas le contrat.
C'est ça.
Il est quelque part dans la nature, on ne sait pas trop mm-hmm. où, mais elle conserve ses droits de pouvoir, dans le fond, travailler pour la famille.
Officiellement, non, parce que son permis de travail est attaché avec celui de son conjoint. Donc, automatiquement, en brisant son permis de travail, parce que dans le fond, il brise son permis de travail, il brise son contrat de travail, ce qui brise son permis de travail. Donc, mm-hmm. automatiquement, elle devrait perdre son permis de travail ouvert, sauf qu'il n'y a aucune démarche de fait nulle part.
Il n'y a pas de contrôle.
Il n'y a pas de contrôle. Donc, finalement, elle, avec son permis de travail ouvert, peut travailler n'importe où.
Bon, il faut, avant d'aller au conseil du patronat, parce que si je comprends bien, là, ça s'est passé dans d'autres entreprises. Hein? Je pense que vous avez eu connaissance, ça s'est passé dans d'autres entreprises en Abitibi,
oui.
exact?
Oui, oui, oui. Puis je vous dirais, je suis persuadée que si vous téléphonez à quelques entreprises qui font affaire avec l'immigration, c'est pareil partout, là. Je suis certaine que c'est pas particulier à l'Abitibi, là.
OK. Il faut quand même dire, je pense que vous l'avez dit, vous en avez recruté quand même des travailleurs venus d'ailleurs et ça s'est bien passé, là.
C'est oui, pas, non.
Hein?
Oui, c'est vraiment, c'est un pourcentage, là. En fait, c'est la première fois, ça fait plusieurs fois qu'on fait affaire avec l'immigration. C'est la première fois qu'on a des problématiques comme celle-là. S'il y avait une démarche officielle, je vous dirais qu'on se parlerait pas ce matin, là.
D'accord.
Fait que c'est vraiment juste, c'est ça. C'est vraiment juste parce qu'il y a aucune démarche. Fait que nous, on a énormément de responsabilités, mais de ce que j'en vois, on n'a aucun droit, puis on n'a aucun recours.
Voilà, c'est ça. Exactement. Très bien, Nathalie. Je suis très content que vous nous ayez appelé. Et on va voir maintenant, je sais que Mylène Deschamps a placé des appels du côté du gouvernement du Québec et du côté du gouvernement fédéral. Donc, on va voir s'ils vont nous retourner les appels, puis on va voir un peu si ça peut bouger. Mais je pense pas que ça a été inutile. De toute façon, il y a plein de gens qui nous écoutent, y compris moi-même qui vous écoute, qui avons appris beaucoup avec cette entrevue. Je vous souhaite bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup, M. Drainville.
On va aller rejoindre Denis Hamel, il est vice-président politique de développement de la main-d'œuvre pour le Conseil du patronat. Bonjour, M. Hamel.
Bonjour, M. Drainville.
Bon, comment vous réagissez?
Écoutez, c'est une histoire de plus dans la maison des fous qui est l'immigration au Québec. C'est vraiment incroyable, toutes ces démarches auxquelles l'entreprise est confrontée. Faut dire que c'est quand même assez inhabituel. La plupart des travailleurs étrangers temporaires viennent ici, respectent leur contrat, il n'y a pas trop de problèmes, mais à chaque année, il y a toujours des histoires comme ça. Et puis, c'est vraiment dû à la rigidité du programme, notamment là, qu'on attribue ces faits-là.
Bon, là, moi, je veux pas rentrer dans la chicane de gouvernement, mais le programme des travailleurs étrangers temporaires relève bel et bien du gouvernement fédéral. Là. Il faut toujours bien mettre les responsabilités là où elles se trouvent.
Oui, c'est une responsabilité exclusive du gouvernement fédéral, notamment pour l'émission du permis de travail et du visa de séjour. Mais le MIFI, effectivement, doit donner un CSQ dans tous ces cas-là, mais c'est un programme fédéral.
Oui, le MIFI étant le provincial, sauf que le certificat de sélection, tu le donnes une fois que la personne a fait, ben dans le cas du travailleur numéro un, là, un an. Bon, mais moi, ce qui m'étonne, puis ce qui franchement plus que m'étonne, là, je trouve que ça n'a absolument pas de bon sens que les autorités s'en lavent les mains.
Ben, écoutez. Vous savez, techniquement, une fois on peut pas forcer quelqu'un à travailler. Une fois que quelqu'un est ici avec un permis, oui, c'est vrai que le permis est fermé, il est lié à une entreprise. Supposons qu'il démissionne, qu'il décide de ne plus travailler, il n'est pas automatiquement obligé de retourner chez lui. Il a un permis de séjour au Canada. Il ne peut pas travailler. Il devient un visiteur. Il devient un touriste. Alors, les autorités ne peuvent rien faire pour l'expulser ou le sortir du pays ou l'obliger à retourner travailler dans son entreprise.
Oui, mais si vous me dites que ça devient dans les faits un touriste avec un permis de tourisme, la durée des visas de touriste est limitée?
Oui, mais par contre, lui, il est venu avec un visa de travail. Il n'a pas respecté son permis de travail, mais il peut respecter les dates qui sont prévues sur son permis de travail. Alors, s'il est ici, s'il est venu, par exemple, le cas du travailleur numéro un, il est venu pour 3 ans, il est possible que son visa lui permette d'être ici 3 ans.
Oui, mais là, moi, je suis très, très pour l'immigration, là. Mais, M. Hamel, si tu viens chez nous en fonction d'un contrat, puis que tu respectes pas le contrat, ben c'est bye-bye mon cowboy. Là. On devrait avoir le pouvoir de le retourner chez eux. Là. Je m'excuse, là, mais c'est comme ça que ça marche.
On pourrait, effectivement. Les autorités devraient mettre ces situations-là, parce que ce qui arrive dans les faits, c'est pas des touristes. C'est des gens qui vont essayer de travailler pour gagner leur vie.
Mais ils vont
travailler au noir.
Ils vont travailler au noir, exact.
Eh oui. Alors, est-ce que personne veut? Alors là, il y a des risques au niveau des indemnités. Donc, le travail au noir, on est tous contre ça. Donc, c'est une façon, en même temps, de favoriser le travail au noir que de ne pas le faire. Fait que, oui, on vous suit là-dessus, tout à fait.
OK. Vous me dites, ça arrive, mais pas si souvent que ça. Mettons, c'est pas la première fois que vous entendez une histoire comme celle-là, là. Est-ce que vous avez, vous, comme conseil du patronat, fait des démarches auprès des gouvernements pour dire, là, écoutez, c'est bien beau l'immigration, mais il faut s'assurer que ça se fasse correctement. D'abord, laissez-moi vous poser la question très ouvertement. Est-ce que vous avez eu d'autres cas comme ça qui vous ont été soumis par le passé?
À l'occasion, oui, c'est pas légion. Il arrive, on l'a vu dans le domaine agricole, par exemple, des travailleurs qui ont été sollicités pour travailler dans une autre entreprise qui sont partis. Comme je vous dis, c'est pas des grands nombres, mais ça arrive à chaque année.
OK. Puis est-ce que vous, comme conseil du patronat, vous avez fait des démarches pour attirer l'attention des autorités là-dessus puis s'assurer qu'il y a un suivi, dans le fond?
Ça fait plusieurs années qu'on fait des démarches auprès des deux gouvernements, surtout du gouvernement fédéral, pour justement apporter des modifications au programme des travailleurs étrangers temporaires. Jusqu'à maintenant, je dirais dans les 10 dernières années, les modifications qui ont été apportées par le fédéral ont été de mettre plus d'exigences, plus de restrictions pour les employeurs. On n'est vraiment pas vers l'allègement, bien au contraire. Souhaitons que ça va changer avec le nouveau gouvernement. Alors, mais c'est un exemple parmi tant d'autres qui est illustré aujourd'hui du fait que c'est un programme extrêmement rigide puis qui ne correspond pas du tout aux besoins du marché du travail actuel.
En tout cas, je vais vous dire une chose, M. Hamel. Quelqu'un qui cherche des raisons pour être contre l'immigration regarde une affaire comme ça puis il se dit « Ah, vous voyez bien, il y en a qui abusent. »
mais ça demeure une minorité. Et puis ça, il faut vraiment dire, la très, très grande majorité des gens qui viennent ici, que ce soit pour l'immigration temporaire, l'immigration permanente, viennent vraiment ici pour travailler, avec toujours l'espoir d'avoir éventuellement la résidence permanente. Mais on ne devrait pas utiliser un exemple comme celui-là pour dénigrer l'immigration. Bien au contraire, on a tellement besoin d'immigrants ici pour occuper nos postes, parce que la pénurie de main-d'œuvre, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, la pénurie de main-d'œuvre, elle est partout au Québec, dans tous les secteurs.
Mais utilisons ce cas-là peut-être pour améliorer le système, pour éviter les abus, justement.
Ah, si on peut améliorer le système, le Conseil du patronat sera derrière, parce qu'effectivement, toute la question de la rigidité du programme, des délais, font en sorte qu'on pousse les travailleurs étrangers à trouver des solutions par eux-mêmes, se mettre dans l'illégalité, puis souvent, ils n'en sont même pas conscients. Les personnes, travailleurs numéro un, travailleurs numéro deux, sont actuellement sur le territoire du Québec, sont dans l'illégalité, et ils mettent en péril leur projet de vie, puis probablement même leur famille qui envoie de l'argent à l'étranger. Donc, ils ont vraiment fait un mauvais choix, que ce soit conscient ou inconscient. Puis, si on peut améliorer le programme pour éviter ce genre de choses-là, ça fait bien sûr partie de nos préoccupations et de nos désirs de modifier le programme.
Denis Hamel du Conseil du patronat du Québec, ça a été un plaisir. Merci.
Merci à vous.
On s'arrête au retour. On parle à un ancien très haut dirigeant de la Sûreté du Québec qui va commenter l'arrivée de Mme Joanne Beausoleil, qui va être nommée aujourd'hui grande patronne de la Sûreté du Québec.